15-13 que j'espère que vous avez mémorisé, que vous avez pu méditer. On va le dire encore ensemble ce matin. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est une prière. C'est une prière que Paul fait pour les chrétiens à Rome. Et c'est ma prière pour vous. Et c'est ma prière pour moi aussi. Et je vous encourage à prier cette prière. Il y a quelques semaines, je vous ai démontré comment on prie, comment on fait pour prier les Écritures. Bien, prenez un verset comme ça, qui est une prière, appropriez-la à vous-même. Dites, Seigneur Dieu, auteur d'espérance, fais déborder mon cœur de toute joie et de ta paix par ma confiance en toi. Remplis-moi de cette espérance-là, que mon cœur déborde cette espérance-là par la puissance de ton Esprit Saint. Fais cette prière-là. Ça, c'est puissant, ça. Prier les Écritures, c'est puissant, parce que c'est des paroles inspirées par le Saint-Esprit lui-même. Alors, voilà le verset thème de notre série. À date, on a vu... L'écran n'est pas... OK, désolé. Oui, c'est vrai. Je suis dans la lune le matin. Désolé. Là, ça. Ensuite, la manette. Et peut-être là-dedans. OK. Parfait. Oh, merci Robert. Désolé. Voici ce qu'on a vu à date. On a vu que l'espérance du croyant comporte l'espérance d'un corps ressuscité, glorifié, incorruptible, puissant, comme le corps du Seigneur Jésus, après sa résurrection. C'est toute une espérance, ça. Ça fait une grosse partie de notre espérance. On a vu dans la deuxième section l'espérance d'hériter du royaume, de régner avec le Christ lorsqu'il revient sur terre pour régner pour 1000 ans et ensuite pour l'éternité. Et ça, c'est toute qu'une espérance. Et ensuite, on a considéré dans les dernières semaines l'espérance de se trouver pour toujours dans sa présence glorieuse. Et la semaine passée, on a vu la puissance transformatrice de cette espérance-là. Et ce matin, on va regarder encore à la puissance transformatrice de l'espérance. Mais juste en guise d'introduction, en 1999, on se préparait pour un voyage à Calgary en famille, pour un congrès d'ophtalmologie et des vacances, suivies de vacances en famille. Et assis autour de la table de souper, Émilie voulait savoir qu'est-ce qu'on prévoyait faire là-bas. Alors, avec enthousiasme, je lui disais, on va aller voir le site du Stampede de Calgary, puis on va se rendre dans les Rocheuses. On prévoit faire du cheval, etc. Puis à chaque mention d'une nouvelle activité, Michael, qui n'avait pas tout à fait encore 5 ans, il faisait « Yes! » Chaque fois que je disais quelque chose, il disait « Yes! On va aller dans les Rocheuses. Yes! On va faire du cheval. Yes! » Puis, si vous connaissez Michael, il est enthousiaste. Le petit Michael. Puis là, j'ai dit « On va peut-être faire du rafting. » Et là, Lorraine a dit, je suis pas sûr. Elle dit qu'on va faire du rafting. Elle dit, pourquoi? Parce que c'est dangereux. On peut tomber en bas, puis on peut se frapper la tête, puis aller voir Jésus. Là, Michael, il regarde Émilie. Yes! On va aller voir Jésus! On va aller voir Jésus! C'était dans l'itinéraire, tu sais. Ça fait partie des attractions. Là, Émilie a dit, non, Michael, là, ça veut dire que tu meurs si tu veux voir Jésus. Mais c'est ça la beauté d'être dans une église longtemps, on peut recycler nos vieilles histoires. Puis le monde, ils vont rire 20 ans plus tard. Donc, on a vu que d'aller voir Jésus, d'être dans sa présence glorieuse, c'est extraordinaire, ça fait partie de cette espérance-là. On a été promis à un nouveau corps qui ressemble au sien. Mais ce matin, on va considérer un aspect qu'on n'avait pas encore considéré, qui va au-delà du corps qu'on va avoir, qui va ressembler au corps du Christ. Mais Et le dernier élément, et non le moindre, que le Seigneur m'a donné à considérer avec vous ce matin, c'est par rapport à notre être tout entier. Notre être tout entier, c'est-à-dire qu'on va être transformé à la ressemblance de Christ. On ne parle pas juste du corps, on parle de tout l'être. Tout l'être, ressembler à Christ. Donc, la phrase sommaire maintenant, ce matin, voici le résumé du message. Ressembler à Christ constitue le summum de l'espérance du croyant, mais pourquoi attendre? Le Saint-Esprit peut te transformer déjà à travers la contemplation du Christ glorieux. Voilà la phrase sommaire. Puis on va regarder quatre points. Le premier, c'est de ressembler à Christ notre espérance. Le deuxième, c'est ressembler à Christ notre plus grand bien. Question. Ressembler à Christ, pourquoi attendre? Et ressembler à Christ, bien, être transformé par le Saint-Esprit à travers la contemplation du Christ glorieux. Fait que c'est ce qu'on va voir ce matin. Le premier point, c'est ressembler à Christ, c'est notre espérance. Mes chers amis, dit Jean dans 1 Jean 3:2, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. C'est acquis. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Mais nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons quoi? Semblable à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Prions. Éternel notre Dieu, souverain roi de l'univers, créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y meut, des lois immuables, invisibles de la nature. Dieu glorieux, Dieu tout bon, tout beau, tu es magnifique dans ta sainteté. Tu es glorieux dans ta majesté. On veut ce matin s'approcher de toi. On veut demander que tu nous éclaires les yeux du cœur pour qu'on voit les réalités spirituelles, les réalités d'en haut, où Christ siège à ta droite. On repousse en ton nom, Seigneur Jésus, toute autre voix. Et on veut entendre ta voix seule qui nous parle ce matin. Viens, Saint-Esprit, Esprit de vie et de vérité. Coule en nous, souffle sur nous. Transforme nos cœurs par ta puissance pour la gloire de Christ, notre Sauveur. Amen. Nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Je veux dire, c'est, d'après moi, le summum de l'espérance du croyant. C'est une partie intégrante, indissociable, que nous serons transformés, car nous le verrons tel qu'il est. Paul dit dans Romains 5, 2, « Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » On a parlé, dans les dernières semaines, l'espérance d'être en sa présence glorieuse. Mais là, il dit, c'est plus loin ici, là. C'est d'avoir part à cette gloire-là. C'est inimaginable. C'est incompréhensible. D'avoir part à la gloire de Dieu. D'avoir part à la gloire de Dieu, d'y participer. Le jour où Christ apparaîtra, Paul dit dans sa lettre aux Colossiens, « Lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui, en quoi? Partageant sa gloire. » En partageant sa gloire. Ben voyons donc, comment est-ce qu'on peut partager sa gloire? C'est qu'il nous fait participer à cette gloire-là. Il nous inclut dans sa personne et il va nous rendre semblables à lui. Waouh! Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frère, dit Paul aux Thessaloniciens, vous que le Seigneur aime. Ah oui, ça c'est bon, hein? En passant, si le Seigneur t'aime, mais est-ce que je t'aime? Pas toujours, hein? Mais ça devrait m'aider à t'aimer, savoir que le Seigneur t'aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié par le moyen de votre foi à la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous, quoi? Possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, ça fait 4 versets qui parlent de ça, là. C'est pas un verset tout obscur à quelque part. Il y a vraiment quelque chose de grandiose ici. On parle pas simplement de voir la gloire de Dieu, mais d'y avoir part. Quelle richesse! Quelle espérance! Wow! Ressembler au Fils glorieux de Dieu, avoir part à sa gloire. Et puis, ça nous force à dealer avec la question, ressembler à Christ, c'est-tu vraiment mon plus grand bien? C'est-tu mon plus grand bien? C'est-tu ça le summum de ce qu'il peut avoir de plus beau dans l'univers? Est-ce que c'est ça vraiment mon plus grand bien, ressembler à Christ? C'est quoi le plus grand bien que Dieu désire te faire, mon frère, ma sœur?
D'être à ses côtés.
OK. C'est une question sérieuse, hein, et profonde, là. C'est quoi le plus grand bien que Dieu veut te faire?
Moi, j'aurais peut-être une réponse,
l'éternel. OK. C'est bon. Mais le plus grand bien que Dieu veut te faire dans l'univers, c'est de ressembler à Christ. Crois-tu réellement que ressembler à Christ, c'est ton bien ultime? Je ne sais pas. Pourquoi ressembler à Jésus serait ton plus grand bien? Pourquoi?
Parce qu'on va être
transcendé.
OK.
Bien, dans Colossiens chapitre 1, je ne l'ai pas mis ce verset-là. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait lire Colossiens chapitre 1, versets 12 à 20? Je vais me promener. Qui va avoir la référence? Laurence, OK. Colossiens 1, j'ai dit 12 à 20, hein? C'est ça? OK.
Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
Amen. Merci beaucoup, Laurence. En lui habite pleinement, quoi? Toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. Ressembler à Christ, c'est de ressembler à Dieu. Qui est Jésus-Christ? Il est l'être le plus merveilleux qui existe dans l'univers. Le plus aimant, le plus gracieux, le plus doux, le plus généreux. Vous savez, des fois on rencontre des belles personnes dans la vie, hein? Puis on dit, waouh, cette personne-là est vraiment, c'est une belle personne, quoi. Hein? Généreuse d'esprit, calme, bienveillant. Mais Jésus, c'est l'être le plus merveilleux de l'univers, le plus gracieux, le plus doux, le plus généreux, le plus gentil, le plus intelligent, le plus puissant, le plus accueillant, le plus bienveillant, le plus juste, le plus bon, le plus saint, le plus glorieux, le plus magnifique dans tous les aspects de son être. On ne peut pas s'imaginer quelqu'un, un être plus beau, plus merveilleux que Jésus, le Fils éternel, qui a tout créé et qui a accompli encore plus, selon ce passage-là, la réconciliation par son sang. Comme le dit si bien le vieux cantique qu'on chantait, « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. » Crois-tu réellement que ressembler à Christ, c'est ton bien ultime? Moi, je n'ai pas toujours cru ça, là. Ah, si tu m'aurais demandé, est-ce que tu crois que ressembler à Christ, c'est ton plus grand bien? J'aurais dit, ben oui, c'est sûr. Mais le croire dans mon cœur, c'est autre chose. C'est autre chose. Si ressembler à Christ, partager sa gloire, on est tous d'accord, ça va être glorieux, ça va être merveilleux, rendu au ciel. Ben, pourquoi attendre? Pourquoi attendre pour ressembler à Jésus-Christ? Ça, c'est le troisième point. Si c'est ça ton plus grand bien vraiment, pourquoi attendre? Ah, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Mais là je vis sur terre, puis garde, faut que je paye mes termes, puis il faut que je réussisse à finir mes études, puis il faut que je fasse ci, je prends soin de mes enfants, je prends soin de mes petits-enfants, il faut que je fasse plein de choses à l'église, puis j'ai un tas d'affaires, là, un tas d'affaires à m'occuper. Ça se peut-tu, mon frère, ma soeur, que comme moi, tu luttes réellement avec la notion que ressembler à Christ soit ton plus grand bien? Soyons honnêtes, là. Soyons honnêtes. Ressembler à Jésus, c'est vraiment ton plus grand bien? Si je suis honnête avec vous et avec moi, je dois avouer que parfois, dans le fond de mon cœur, je me dis, « Ben, ça va venir un jour au ciel, pourquoi se presser? » Pourquoi se presser? Donc, je peux me permettre, tu sais, c'est ça, on se donne du lousse, là. Ça va arriver un jour, Dieu va s'occuper de ça. Il dit que lorsqu'on va le voir, on va être comme lui. Parfait, super. Excellent, je suis bien content de le savoir. Mais ça va venir un jour, pourquoi se presser? Dieu va faire une bonne job rendu au ciel. Alors, je peux me permettre de continuer d'être le bon vieux moi que j'aime. Hein? Oui, Lourdes. Oui. C'est ça. Oui. Oui. C'est ça. Exactement. Merci. Je vais répéter. C'est que si je n'ai pas expérimenté vraiment la douceur, l'amour, la bonté, la beauté de Christ, je ne l'ai pas vécu, bien, ça va demeurer quelque chose d'intellectuel, ressembler à Christ. Ou bien peut-être que dans le fond de mon cœur, je pense que ressembler à Christ, ça serait plate, dans le fond. que ça serait douloureux, que ça serait souffrant, que je vais devoir sacrifier plein d'affaires pour ressembler à Christ. Puis ressembler à Christ, bien là, tu peux pas me demander de ressembler à Christ, Brian. Voyons, je suis pas Christ, moi. Voyez comment est-ce qu'on s'esquive, hein? On s'esquive. Dieu, son but ultime, c'est ça. Il dit que rendu au ciel, il va te transformer. Mais est-ce qu'il faut que ça tende jusque-là? Ça commence ici, c'est ce qu'on va voir. Mais de ne pas le vouloir maintenant, ça révèle le fond de ma pensée que peut-être je ne suis pas si convaincu que ça que lui ressembler, c'est mon bien. Sinon, je sauterais sur toutes les occasions pour laisser Dieu me transformer déjà. Je vais vous donner un exemple. Supposons que tu es le fils d'un richissime homme d'affaires. Il y a dans le garage de ton papa une belle Ferrari qui fait la fierté de ton père. Puis là, le jour de tes 18 ans, il dit, « Fiston, j'ai décidé de te léguer ma Ferrari. » Wow! Hey, là, hein, c'est quelque chose. Mais sais-tu quoi? Je me suis dit que je ne veux pas te faire attendre tout ce temps-là avant que tu puisses en profiter. Alors, voilà, je te donne une copie de la clé et tu pourrais la sortir quand tu voudras. Mais toi, de répondre à ton père, « Ah, super, papa, oui, merci beaucoup, mais là, je ne suis pas pressé, je veux attendre. » Mais c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Dieu dit, « Mon plus grand bien, ton plus grand bien, c'est de ressembler à Christ. » Un jour, c'est ce qui va arriver, il va te transformer complètement à la ressemblance de Christ. Mais il veut le faire là. Mais nous, on dit, « Mais, pas trop sûr. » Voyez-vous, ça révèle notre pensée, que c'est peut-être pas si merveilleux que ça dans notre cœur de ressembler à Jésus. Ou bien, peut-être pour les dames, ton papa te dit, « Voici le collier en or et diamant de ta grand-mère, qui va te revenir en héritage un jour, mais je veux que tu l'aies maintenant pour que tu commences déjà à en jouir. » Et toi, de répondre, « Ah, super, papa, merci énormément, mais je ne suis pas pressé. Tu peux le remettre dans la coffre de sécurité pour plus tard. » Donc, ressembler à Christ dans l'éternité, merveilleux, parfait, mais ici, maintenant, pas sûr. Mais Dieu, son but, là, c'est vraiment ça. Regardez dans Romains 8, 28. C'est un verset que la plupart d'entre vous connaissez. « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément à son plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. » Le verset nous dit que Dieu fait concourir toutes choses. Je sais que dans la version Louis II, c'est marqué « toutes choses concourent au bien », mais ça, c'est la voie passive. Mais en réalité, dans le grec, c'est la voie active qui veut dire « Dieu fait concourir toutes choses ». Ce n'est pas que les choses arrivent, puis non. C'est Dieu activement fait concourir toutes choses pour le bien. Maintenant, ce verset-là a été utilisé à outrance pour dire, ben moi, je veux tel bien, Dieu, tu sais, non. Mais c'est quoi le bien? Ben le bien est décrit dans le verset parce qu'il dit, en effet, il élabore l'expression en effet, veut dire, maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le bien, là. En effet, ceux qui ont connu l'avance et qui étaient destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Fait que Dieu fait concourir toutes choses dans ta vie pour ton bien. C'est quoi ton bien? Ressembler à Christ. T'es-tu convaincu de ça? Moi, je ne l'étais pas. Honnêtement, je ne l'étais pas. Puis, je ne suis toujours pas à 100%, honnêtement. Mais de plus en plus. Comme Lourdes dit, de plus en plus, alors que je contemple Christ, que je vois sa beauté, que je vois son caractère, que je vois que quand je laisse son Saint-Esprit là, agir dans ma vie pour que je ressemble, ben, je suis rempli de joie. Je suis rempli de paix. Je suis comme je devrais être vraiment. Je vis ce pourquoi j'ai été créé réellement. Le mot concourir, hein, j'ai déjà parlé là-dessus pour certains qui s'en rappellent. Le mot concourir, en grec, c'est synergos. Synergos, ça part de deux mots grecs, syn, ça veut dire avec, et ergos, ça veut dire travail. Okay? Ergos, c'est travail. Dieu fait travailler ensemble toutes choses dans ta vie, toutes choses, pour un but. Et le but, c'est que tu ressembles à Jésus-Christ. Et c'est là que souvent, parce qu'on oublie ça, là, quand il arrive des choses mauvaises, on dit, mais voyons donc, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça ne se peut pas que je tombe malade. Ça ne se peut pas que je rate mon avion. Ça ne se peut pas que je perde mon travail. Ça ne se peut pas que je tombe malade. Ça ne se peut pas que mon voisin me chicane. Ça ne se peut pas que ça ne va pas bien dans mon couple. Qu'est-ce que tu fais, Dieu? Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Parce que ton but à toi ne s'enligne pas avec le but de Dieu. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Puis que je ne comprends pas. Parce qu'on a des buts autres que le but de Dieu. Tu as un but autre. Tu as des buts autres que le but ultime de Dieu pour toi. Le but ultime de Dieu pour toi, c'est de t'amener à ressembler à Christ. C'est ton plus grand bien. Mais toi et moi, nous, on se donne d'autres buts. On a d'autres buts. Être heureux. Rien de mal de vouloir être heureux. Mais c'est quand on fait de ce but-là notre ultime bien, que là, il arrive des choses, puis on dit, « Mais voyons donc, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. » Tu ne comprends pas parce que tu ne comprends pas son but. Oui, Jean-Claude, tu voulais dire quelque chose? Faire équipe avec Dieu pour le bien. OK. Oui. OK. Oui, Robin.
Oui, je voulais dire aussi, il faut y croire inconditionnellement.
Wow.
Au lieu d'être conditionnel, le mieux, c'est de le faire inconditionnellement.
Wow. C'est bon, ça. Effectivement. C'est très bon, Robin. Merci beaucoup. Parce qu'effectivement, on peut aussi dire, ben, oui, c'est ça que je veux aussi, mais j'ai des conditions. Des conditions. Tu sais, récemment, cet été, un bon ami de Lorraine et moi, un serviteur de Dieu, un évangéliste à la baie, un gars qu'on connaît depuis notre adolescence, ben, il a pris sa moto, puis il a dérapé dans une courbe dans petit Saguenay. Il a déboulé dans le fond du vallon, puis il s'est ramassé paralysé. Là, il est paralysé.
Les deux jambes.
Pas drôle, hein? Là, on se dit, ben là, pourquoi? 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 C'est pas pour minimiser la souffrance. On ne minimise pas la souffrance. Mais Dieu a permis cette chose-là pour l'amener, lui, à ressembler plus à Christ. Et c'est là. On a peur, hein? On a peur. J'ai peur, toi, tu as peur aussi, je suis sûr de ça. Parce que si tu dis, OK, Seigneur, OK, je comprends que tu veux que je ressemble à Christ, j'accepte ça, mais... je ne veux pas me ramasser paralysé des deux jambes, Seigneur. Il ne faut pas que tu me fasses ça là, pour ressembler à Christ. On met des conditions. C'est ce que tu viens de dire. On met des conditions à Dieu. C'est parce qu'on n'a pas idée comment ressembler à Christ, c'est grandiose. C'est pour ça. On n'a pas idée comment c'est glorieux de ressembler à Jésus. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on met des conditions. T'es-tu vraiment convaincu? OK.
Moi, il y a 4 ans, moi j'ai 63 ans, il y a 4 ans, j'ai eu un cancer.
Oui.
Ça a été dur, mais je l'ai accepté. Inconditionnellement, c'était dur, mais je l'ai accepté.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On peut lutter sur le coup quand il nous arrive des choses comme ça. C'est normal. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais Dieu veut ton plus grand bien. Ton plus grand bien, c'est quoi? D'être conforme à l'image de son Fils. Et la question, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu collabores avec lui? Vous savez, j'entends souvent les frères et sœurs dire des trucs comme « Ah, moi, j'ai toujours été de même » pour expliquer leur attitude ou leur comportement. Des choses comme « Depuis que je suis jeune, j'ai toujours préféré me tenir un peu à l'écart, pas trop me mêler avec les autres. Je suis comme ça. Je suis comme ça. » OK. Mais Christ, es-tu comme ça? Hein? Christ s'est tenu à l'écart ou il est allé vers les gens? Alors, de dire « Moi, j'ai toujours été de même », ben, ça veut dire que je vais rester de même. Hein? Je ne changerai pas. Là. C'est, je suis comme ça. Ça veut dire que si Dieu veut te changer, tu ne veux pas. Là. Tu veux rester comme ça. Mais si Jésus, lui, c'est quelqu'un qui allait vers les gens, OK, là, on parle de c'est quoi les enjeux de mon cœur? Pourquoi je ne veux pas? Mais est-ce que je veux ouvrir mon cœur à Jésus puis lui demander c'est quoi? Pourquoi je ne veux pas aller vers les gens? Est-ce que tu peux me le montrer? Est-ce que tu peux me guérir? Est-ce que tu peux me transformer? Ah non, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Toujours été de même. Ben moi, je n'ai pas de patience avec les gens difficiles. Je ne suis pas capable. J'ai toujours été de même. OK? Jésus, lui, comment est-ce qu'il était avec les gens difficiles? Oh ben ouais, on peut peut-être dire que j'ai un caractère fougueux. J'ai un caractère fougueux, j'ai toujours été comme ça, je suis comme ça. J'ai un caractère fougueux. Oh, ah bon. Puis Jésus, lui? Non, moi, aller servir les gens, là, ça me gêne trop. Aller servir les gens, ça me gêne trop, j'aime pas ça, j'ai toujours été comme ça. Ouais, mais Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Puis si Dieu veut te transformer pour que tu ressembles à son Fils, de dire « je suis comme ça », ça veut dire que « oublie ça, Dieu, je suis comme ça hein? ». Ou bien, moi, j'aime pas laisser les gens trop entrer dans ma vie personnelle, j'ai toujours été comme ça. Pas de relation intime. On va se dire salut à l'église le matin, bonjour, à la semaine prochaine, mais non, on veut pas d'intimité. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'intimité. Entre lui et toi, mais entre nous aussi, de l'intimité. Mais ça fait peur. Ça peut faire peur. Peut-être que je ne veux pas l'intimité parce que j'ai été blessé dans le passé. Ah, OK. C'est correct, on comprend ça. Mais est-ce que Jésus peut guérir ça? Est-ce que Jésus peut te libérer de ça? Est-ce que Dieu peut te transformer pour que tu deviennes une personne qui a plus peur de l'intimité? Ou bien, la personne qui, moi, je l'ai entendu souvent, « Moi, je dis ce que je pense. Un point, c'est tout. J'ai toujours dit le fond de ma pensée. Je suis transparent. Je dis ce que je pense. J'ai toujours été de même. Puis s'il y en a qui n'aiment pas ça, c'est leur problème. » Oh! Ah oui? Ah, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce. Oui, tu peux dire les vraies choses, mais assaisonner de grâce. Jésus, c'était grâce et vérité. Grâce et vérité. Si on dit juste le fond de notre pensée, sans grâce, ce n'est pas de ressembler à Jésus-Christ. Ou bien moi, l'injustice, je ne suis pas capable. Je ne tolère pas ça. Les gens le savent, puis c'est tant mieux parce que c'est comme ça, puis c'est tout. Tolère pas l'injustice. Ah, OK. Moi, je suis comme ça en passant. Là. Brian Mathieu, il est comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai subi des injustices. Puis ça met en colère l'injustice. Jésus, c'était quoi sa réaction à l'injustice? La colère? La vengeance? Ah oui, Dieu utilise les circonstances de nos vies pour nous transformer. Est-ce qu'on le laisse nous transformer? Est-ce que je collabore? Est-ce que je veux? Est-ce que je veux vraiment ressembler à Jésus-Christ? Quatrièmement et dernièrement, on est transformé par le Saint-Esprit à travers la contemplation de la gloire de Christ. Voici ce que Paul affirme dans 2 Corinthiens 3:18. Nous tous, qui le visage découvert, ça veut dire qu'il n'y a plus de voile, il n'y a plus de séparation, parce que Paul y parle de l'ancienne alliance puis la nouvelle, puis dans l'ancienne, il y avait un voile qui séparait la présence glorieuse de Dieu, hein, le très saint, là, de l'endroit où ce que les gens s'assoyaient. Donc, ils ne voyaient pas la gloire de Dieu, il y avait un voile. Mais il dit, Christ a déchiré le voile, il a ouvert la voie. Donc, nous tous, le visage découvert, comme dans un miroir, ça veut dire imparfaitement. Les miroirs dans ce temps-là, c'était du bronze poli, ce n'était pas comme nos miroirs aujourd'hui. Ça veut dire un peu sombre, ce n'est pas parfait, mais nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes quoi? Transformés en son image. En faisant quoi? En contemplant. En contemplant la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Wow! Premièrement, on va essayer de déballer ce verset-là. Contempler. Ça veut dire quoi, contempler? Ça veut dire considérer attentivement, s'absorber dans l'observation de, regarder avec attention, admiration, examiner. C'est d'être saisi de quelque chose. Lorsque tu étais jeune, avais-tu des, entre guillemets, des idoles, des gens que tu admirais, que tu adulais même? Un athlète, ou une star du cinéma, un chanteur, une chanteuse célèbre, un super-héros peut-être. Et qu'est-ce que tu passais ton temps à faire? Ben, à écouter ses chants ou à visionner ses films ou les émissions dans lesquelles elle paraissait, à découper chaque photo dans le journal ou de revue que tu trouvais, de l'accrocher sur les murs de ta chambre, si ta mère le permettait. Je vois qu'il y en a qui l'ont fait. Et c'était quoi ton plus grand rêve? C'était de ressembler à cette personne-là et de le rencontrer un jour. Hein? Tu t'habillais comme elle, tu employais ses expressions, tu imitais ses mouvements de danse peut-être, un Michael Jackson ou quelqu'un de même. Moi, c'était Batman. Batman, c'était mon idole. Moi, à l'école, là, j'étais Batman. Puis au camp, j'étais Batman. Puis dans la rue, on jouait, puis on s'habillait, puis j'étais Batman. C'était mon idole. Un Batman, oui. Dernièrement, j'écoutais une émission, un documentaire sur Arnold Schwarzenegger. Et lui, il a grandi en Autriche. Et il avait vu le film d'Hercule en 1961, mettant en vedette l'homme fort sud-africain Reg Park. Immédiatement, en voyant ce film-là, il s'est dit... Je veux être comme lui. Et il a commencé à s'entraîner à l'âge de 16 ans. Et quelques années plus tard, il est devenu champion du monde, Monsieur Univers. Il a gagné des titres à outrance. Il voulait être comme son idole. On devient ce à quoi on porte l'attention, ce à quoi on contemple, ce qu'on idolise, ce qu'on adore, on devient comme ça. On devient comme ça. On devient ce qu'on on considère comme précieux, qui nous captive, qui nous fascine, qui nous saisit, qui nous remplit la tête. Contempler. Observer attentivement. Oui, Rémi?
Il y aurait peut-être une belle illustration.
Oui, vas-y.
Pierre, il voit Jésus marqué sur
l'eau. Oui, c'est ça.
Jésus lui dit, viens.
Oui.
Il veut être sans rêve à lui.
Voilà. Oui. Oui.
Il va. Aussitôt qu'il commence à regarder à lui, il
voit, il cale. C'est ça. Excellent. C'est bon. Tant que Pierre a contemplé Jésus, ça allait bien. Il pouvait le suivre, exact. Puis ça m'amène au deuxième point qu'on veut découvrir dans ce verset-là. C'est que, remarquez dans le verset, le temps du verbe. Le temps du verbe transformé. Sa conjugaison. Nous sommes transformés. Non pas nous nous transformons, pas la voix active. La voix active, c'est toi tu fais quelque chose. La voix passive, c'est quelque chose qui t'est fait. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés par quelqu'un. Et c'est qui, le verset le dit? Le Saint-Esprit. Donc, remarquez bien que ce n'est pas en s'efforçant d'imiter Jésus qu'on devienne comme lui. Ça, c'est très important. Ce n'est pas en s'efforçant de devenir comme lui. C'est là l'effort de la nature humaine qui est voué à l'échec. Le verbe ici dit « nous sommes transformés ». Ce n'est pas quelque chose que tu arriveras à faire par tes efforts. Alors, si ce n'est pas par mes efforts, par ma force, c'est par quelle force? Pour transformer quelque chose ou quelqu'un encore plus, ça prend de la puissance. Pas vrai? C'est une loi de la nature. Pour transformer quelque chose, ça prend de la force, ça prend de l'énergie, ça prend de la puissance pour transformer quelque chose. Et la seule force, la seule personne qui est capable de transformer, qui est capable de me transformer pour que je ressemble à Jésus-Christ, c'est pas Brian, c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Oui, Élise? Oui.
Alors, à ce moment-là, le Seigneur s'est prié sur ce qui est passé. Alors, moi maintenant, je prie pour cette personne-là. Je prie pour elle, parce que le Seigneur s'est aimé pour ses amis. Je pense que je me laisse transformer.
Oui, exactement.
Mais en coopérant avec l'enseignement de Jésus.
Exactement. Il y a une collaboration. Dieu veut qu'on collabore avec lui dans ce qu'il veut faire de nous. Il ne fait pas ça contre notre gré. Il veut qu'on fasse ça avec lui. Tant que tu résisteras, l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, ça va être ardu, tu ne ressembleras pas beaucoup à Jésus. C'est pas grave, je vais ressembler au ciel. Pourquoi attendre si c'est tellement beau, si c'est tellement merveilleux? Pourquoi attendre? Pourquoi remettre au ciel? Alors, ce n'est pas par mes efforts, mais je dois collaborer. C'est ça le point à Élise, et c'est vrai. C'est par quelle force, c'est la puissance du Saint-Esprit, selon ce verset, comment le Saint-Esprit va me transformer, en faisant quoi? Le premier partie du verset nous dit, en contemplant, ça c'est ma part ici, là, dans le verset, en contemplant, la gloire du Seigneur, tout en contemplant, le Saint-Esprit me transforme en l'image de Christ d'une gloire qui ne cesse de grandir ou d'une gloire à l'autre, comme une étape à l'autre. En contemplant la gloire de Christ. Là, ici, je veux dire quelque chose. On a une culture chrétienne. Tu as une culture, moi j'ai une culture. Et notre culture chrétienne, des fois, elle est en ligne avec la parole de Dieu. Des fois, elle est un petit peu en dehors et pas en ligne tout à fait avec la parole de Dieu. Ça se peut-tu que notre culture chrétienne, ta culture, la mienne, m'a dicté que c'est juste en lisant la parole de Dieu et puis en obéissant que je vais être transformé? Est-ce que la contemplation de la gloire de Christ fait partie de cette culture-là? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu dis, non, ça c'est trop ésotérique, ou c'est trop flyé, c'est trop, trop subjectif? Mais non, c'est la parole de Dieu qui dit ici. Là. Contempler la gloire de Christ, observer attentivement, porter attention, s'arrêter pour observer la gloire de Christ. Ça veut dire le Christ ressuscité, là. Le Christ ressuscité, le Christ glorieux. C'est un des moyens que Dieu utilise pour te transformer, pour me transformer à la ressemblance de Christ. C'est peut-être quelque chose qui va te sonner bizarre, là, mais c'est là que ta culture et ma culture, il faut qu'on s'enligne là, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ça. Fait que, est-ce que c'est quelque chose que je dois considérer ou je dis, ah oh non, ben ça, je pense que c'est trop flyé, ça n'a pas rapport. Oui, Denis?
C'est comment qu'on peut contempler okay.
Je m'en viens avec ça. Bonne question. Comment arriver pour contempler la gloire du Christ ressuscité? Ça, on l'a vu, contempler. Premièrement, fais silence en sa présence. La parole de Dieu nous dit, dans Habakkuk 2:20, « L'Éternel est dans son saint temple, que le monde entier fasse silence devant lui. » Habakkuk 2:20. Habakkuk 2:20. Habakkuk. Habakkuk. C'est ça, c'est à côté des Calouites. L'Éternel est dans son saint temple, que le monde entier fasse silence devant lui. Sais-tu quoi? Un des problèmes que j'ai, puis un des problèmes que tu as, mon frère, ma soeur, c'est que quand tu viens pour être en présence de Dieu, tu parles sans cesse. Tu dis à Dieu, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Sauve mes enfants, fais ci, donne-moi un emploi, la bonne santé, Et tu n'arrêtes pas de parler. La parole de Dieu dit, fais silence en présence de l'Éternel. Et oui, même dans le silence, on peut continuer à être, effectivement, préoccupé par nos pensées. Mais fais silence. Imagine-toi un ami qui viendrait chez toi, ouvre la porte, parle, ferme la porte, s'en va. Ça ne restera pas ton ami longtemps, hein? C'est pas une relation à deux voix, là. Fait que là, fais silence. Fais silence en présence de l'Éternel. Va dans une attitude de prière, parle au Seigneur, mais après, arrête de parler et contemple sa gloire. Contemple sa gloire. Fais silence. Deuxièmement, demande-lui d'ouvrir les yeux du cœur, de ton cœur. Comme on a vu dans cette série, on l'a vu quelques reprises, la prière de Paul dans Éphésiens 1, 17. Il dit, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne. » Je demande au Père qui te donne quoi? Par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle il vous appelle. C'est une œuvre de l'esprit. L'esprit ouvre mes yeux pour que je voie, que je contemple avec les yeux spirituels. On a vu, tu savais que tu avais des yeux spirituels, si tu n'étais pas là la semaine passée. J'ai dit, sais-tu que tu as des yeux spirituels? Tu as des yeux spirituels. La Bible dit, tu as des yeux spirituels. Puis on vient au monde aveugle. On est aveuglé par le prince de ce monde. Jésus est venu faire quoi? Il dit dans Luc 4, je suis venu pour donner le recouvrement de la vue. Ouvrir les yeux aux aveugles. Quels yeux? Les yeux physiques? Oui, le fait, mais ce n'est pas ça. Il parle des yeux spirituels. Il faut que Jésus-Christ commence par ouvrir tes yeux. Quand tu rencontres le Christ, tu reconnais tes pécheurs, qu'il est le sauveur. Dieu existe vraiment. Le jugement existe vraiment. Jésus est venu pour porter ton jugement sur la croix pour te sauver. Crie au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et là, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Mais ces yeux-là, la Bible dit ici là, que Paul demande que Christ les illumine pour que tu vois, tu connaisses davantage le Seigneur de gloire, que tu saisisses davantage l'espérance qui est à venir. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Qui avait la main levée? Chantal? Oui, Chantal? Éphésiens 1, 17-18. Oui. Oui. Oui, c'est quoi, ma sœur? Peux-tu nous le dire?
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que c'est bon, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient.
Excellent. Wow, merci ma sœur. Oui, oui, ça se recoupe, hein? Ça se recoupe vraiment. Excellent. Puis, on est en train de répondre à la question « Comment contempler, faire silence en présence, demande-lui de t'ouvrir les yeux spirituels et alimente la méditation par la parole. Écoute les chants chrétiens en adorant le Seigneur, tout en le contemplant dans le silence. Médite la parole, lis la parole et après ça, vois dans la présence de Dieu, médite. » Une des choses que j'ai faites dernièrement, que depuis peut-être un an, c'est en présence de Dieu, de juste méditer sur les noms de Jésus-Christ. Méditer sur les noms de Jésus-Christ. Jésus, tu es le bon berger. Et là, je considère ça. Jésus, tu es la lumière du monde. Wow! Jésus, tu es le sauveur du monde. Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Jésus, tu es la pierre angulaire de l'Église. Jésus, tu es le chef suprême de l'Église. Jésus, tu es la résurrection et la vie. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus, tu es l'étoile du matin. Jésus, tu es le prince de la paix. Jésus, tu es le fils de David. Jésus, tu es le témoin fidèle et véritable. Jésus, tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Jésus, tu es le Verbe incarné. Etc. De méditer, être en présence, contempler la gloire de Dieu. Il y a un vieux cantique qui dit « Contempler mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. » Fait que mon frère, ma sœur, ressembler à Christ constitue le summum de l'espérance du croyant. Mais pourquoi attendre? Le Saint-Esprit peut te transformer déjà à travers, entre autres, la contemplation du Christ glorieux. Prions. Oui, Père, merci pour ce temps précieux dans ta parole. Merci pour ce que tu nous révèles dans ta parole. On veut t'adorer, Seigneur. On veut t'adorer et on veut aussi confesser. Je veux confesser que, Seigneur, pendant des années, je savais dans ma tête, mais mon cœur ne voulait pas vraiment être transformé à Christ. Oui, mais avec condition, peut-être. Seigneur, amène-nous à collaborer, à s'engager, à se laisser transformer par toi, Seigneur. Qu'on ressemble de plus en plus à ton Fils béni. C'est là notre plus grand bien. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. William.